Bonjour à tous et bienvenue à Champ contre Champ, rendez-vous mensuel avec le cinéma proposé par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante. Émission présentée par Jean Lot et qui sera animée par Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Par Catherine Milcan, bonjour Catherine.
Bonjour Jean.
Et par Jean-Michel Jucquet. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean.
Émission qui aujourd'hui sera un petit peu différente des émissions habituelles car elle sera consacrée à une revue du Festival de Cannes qui s'est achevée dimanche dernier. Alors que peut-on dire de manière générale de ce festival ? Déjà que la sélection a été d'une qualité tout à fait remarquable. Sur les 20 films de la sélection officielle, on peut considérer qu'à peine 2 ou 3 d'entre eux n'auraient peut-être pas mérité d'y figurer. Quant au palmarès final, il a dans son ensemble été assez bien reçu, même si comme d'habitude on peut regretter que certains films en aient été oubliés, ou inversement, qu'on peut s'étonner de la présence de certains autres films, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais faire encore une autre remarque d'ensemble. Plus que jamais, le cinéma en général et le Festival de Cannes en particulier sont apparus comme une caisse de résonance des préoccupations du monde. On ne peut qu'être frappé, alors que l'on sort à peine du vote de la loi sur le mariage pour tous, qui a soulevé tant de passions, de voir la place donnée à l'homosexualité dans ce festival. Au moins 3 films, et non des moins remarqués, lui ont été directement consacrés dans les 2 sélections officielles. David Adel et Maviel Liberace dans la sélection compétition, et L'inconnu du lac dans la sélection Un certain regard. Et à ces films concernant le domaine spécifique de l'homosexualité, il faut ajouter tous ceux traitant des problèmes de la famille, que ce soit ceux parents de la famille recomposée, comme le passé, ou ceux abordant le thème de la filiation et de la paternité, comme tel père, tel fils. Je ne sais pas si vous avez été amené à faire un peu les mêmes remarques, Marie-Jeanne.
Oui, absolument, mais je trouve que la sélection cette année a été remarquable par rapport à celle de l'an dernier, qui était vraiment pas très, très intéressante.
Et toi, Catherine ?
Oui, moi j'ai trouvé que c'était d'un très bon niveau et que le palmarès correspondait à peu près à ce que je pensais.
Oui, je crois finalement de ce côté-là, il y a pas été extrêmement déçu, mais enfin je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au fil des films du palmarès, puisqu'on va continuer dans ce domaine, on va continuer en commençant par « À tout seigneur, tout honneur » par le film qui a reçu la Palme d'Or. Je vais parler de « La vie d'Adèle », partie 1 et 2 de Abdelatif Kechiche. Jean-Michel, je crois que tu as beaucoup aimé ce film.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un des 2 films, à mon sens, qui méritait la Palme d'Or. Il s'inspire librement d'une bande dessinée française. Le bleu est une couleur chaude, écrite à 19 ans par Julie Marot, prix du public au Festival d'Angoulême 2011. Adèle, c'est le prénom de l'actrice qui joue le rôle. Clémentine, dans la BD, fait la rencontre d'un garçon de terminale et tous deux se plaisent. Mais peu après, elle va croiser par hasard dans la rue une jeune fille aux cheveux bleus, Emma, au bras d'une autre femme. Incapable d'oublier cette rencontre fugitive, Adèle commence à avoir des doutes sur son orientation sexuelle. Elle va plus ou moins inconsciemment éprouver la nature de ses désirs dans des bars gays où elle retrouve Emma. C'est le début d'une longue et belle histoire d'amour, émaillée d'exaltation sensuelle, de tendresse, de jalousie, d'incompréhension et de rejet de la part des parents d'Adèle ou de complicité de la part des parents d'Emma. Et contre vents et marées, les 2 jeunes femmes vont vivre une liaison, certes sulfureuse, mais heureuse et sexuellement épanouie, qui s'achèvera douloureusement lorsqu'Emma découvre qu'Adèle l'a trompée avec un collègue. Furieuse, elle rompt avec celle-ci qui aborde avec courage le temps de la solitude et du deuil. Les 2 filles qui se mettent en valeur l'une l'autre ont des origines sociales et des vocations très différentes. Emma peint et milite activement pour la cause gay, tandis qu'Adèle, qui se passionne pour le métier d'enseignante de jeunes enfants, reste plus discrète à cet égard. Le film lui-même est long, 2h59, et la première des 2 scènes d'amour entre Adèle et Emma, exceptionnellement longue, 7 minutes, et explicite pour un film qui n'est pas un film X. Mais l'authenticité des sentiments de ces jeunes amoureuses et la sincérité de leur engagement, affectif et sensuel, d'une part, la beauté plastique de la chorégraphie des échanges amoureux, d'autre part, font oublier à bien des spectateurs ce qui aura pu passer aux yeux de certains autres pour une apologie de l'homosexualité, alors que c'est avant tout une émouvante histoire d'amour qui décline toutes les facettes de la passion. Les visages, presque constamment photographiés en gros plan, captent notre regard et notre émotion, et celui d'Adèle Exarchopoulos, peut-être encore plus que celui de Léa Seydoux, semble d'une générosité, d'un naturel absolu et d'une gamme d'expressivité si ample que l'actrice aurait mérité pour moi, à elle seule et de loin, le prix d'interprétation féminine.
Oui, pour moi, ce film a été un peu un choc. Enfin, je voudrais dire que je craignais le pire. 3 heures de projection, un sujet on ne peut plus dans le vent et une absence pratique de scénario. Parce qu'on ne peut guère parler de scénario devant une histoire aussi simple et aussi banale. Alors, de quoi est fait ce film ? De repas, de conversations à deux ou en groupe sans grand intérêt par elles-mêmes, de scènes d'amour, et cela fonctionne incroyablement. Avec Abdelatif Kechiche, pardonnez-moi, filme très longuement, comme il le faisait déjà dans La Graine et le Mulet, et on a l'impression qu'à force d'être là, la caméra se fait oublier, et en profite pour plonger le spectateur au centre même de la vie qu'elle décrit. On a vraiment une impression de vérité absolument extraordinaire.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, le jury a couronné un prix, a donné un prix à un film qui a été unanimement salué. Dès le départ, on a su que c'était vraiment le film qui allait remporter la palme, car il y a dans ce film une intensité des sentiments et surtout un jeu de cette jeune Adèle de 19 ans quand même, qui est d'une sensualité, d'une intensité et d'une émotion qui vraiment mérite largement, effectivement, aurait mérité le prix d'interprétation féminine, mais comme il a eu la Palme d'Or.
Catherine, est-ce que tu partages cet enthousiasme, toi ?
Oui, je partage tout à fait cet enthousiasme. Je trouve que c'est un film remarquable et le fait qu'il dure 3 heures ne m'a absolument pas gênée, alors que d'autres films qui duraient 2 heures m'ont paru horriblement longs. Donc, c'est bien la preuve de sa qualité, puisqu'on est capable de suivre ce film sans s'ennuyer une seconde.
Oui, c'est un peu une surprise, cette capacité d'encaisser 3 heures sans la moindre longueur, finalement.
Absolument, oui.
On va peut-être passer maintenant au Grand Prix du Festival, donc c'est l'autre Grand Prix du Festival de Cannes. Il a été attribué aux frères Cohen pour Inside Llewyn Davis. Alors pourtant, Marie-Jeanne, est-ce que s'agit d'un bon ou d'un petit Grand Prix ? Mais ou bien un grand ou d'un petit Cohen ?
C'est un petit Cohen. Personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé. Je trouve que les Cohen nous avaient habitués à des films d'une autre qualité. Quand on aime la Fox Music, c'est intéressant. Quand on ne l'aime pas, j'oserais presque dire qu'on s'y ennuierait.
Catherine, tu partages un peu d'enthousiasme.
Oui, enfin, je peux vous raconter rapidement ce film. Llewyn Davis est un musicien dans les années 60 à Greenwich Village, chanteur de folk un peu à la dérive depuis que le partenaire avec qui il formait un duo s'est suicidé. Il squatte le canapé de ses amis qui commencent à se lasser, chante dans les cafés, va à Chicago passer sans succès une audition. Le film raconte son errance avec en plus la poursuite d'un chat prénommé Ulysse qui s'est échappé de la maison d'amis. C'est d'ailleurs la partie la plus drôle du film. C'est donc une sorte d'odyssée qui nous est montrée et qui se termine par la fin de sa carrière musicale et le retour à son premier métier, la marine marchande. Llewyn est un loser, pas follement sympathique, qui profite de ses amis jusqu'à faire un enfant à la femme de l'un d'entre eux, qui injurie les parents de son ancien partenaire, néglige son père totalement à la charge de sa sœur. Ce personnage évoque particulièrement Davis Van Ronk, une des figures centrales de ce courant qui a écrit son autobiographie intitulée « The Mayor of MacDougall Street » dont les frères Cohen se sont inspirés pour créer l'univers du film ainsi que certaines scènes. Et Llewyn chante véritablement des chansons qui malheureusement ne sont pas traduites, donc on en perd un petit peu. Il devrait y avoir des sous-titres pour qu'on puisse en profiter. Et la seule originalité, c'est la construction, c'est-à-dire on voit la scène finale au début, on n'y comprend rien du tout, et à la fin, on la revoit, et là, tout s'explique. Mais je pense que Serious Man, par exemple, était bien supérieur, le personnage était beaucoup plus sympathique, et là, on s'ennuie un peu.
Jean-Michel, tu t'es un petit peu ennuyé à ce film.
Très vite, oui, tout à fait d'accord avec Marie-Jeanne, j'arrive pas à m'intéresser vraiment à l'histoire de ce jeune hippie. Et ces efforts pour ressusciter la passion du spectateur pour la folk song ne me convainquent pas du tout. J'ai l'impression de déjà vu, déjà entendu et d'assister sans émotion à un film fait à la va-vite. Mon seul plaisir est de voir Greenwich Village.
Oui, donc ce n'est pas la peine de parler bien davantage de ce film que l'on oubliera assez vite. Et je pense que ça va être un petit peu le cas aussi du film dont je vais parler maintenant. C'est Ellie qui a reçu pourtant un des prix les plus convoités, celui de la mise en scène. Ellie, c'est donc un film du réalisateur mexicain Amat Escalante. Alors, je pense que si Inside Llewyn Davis était contestable, celui-là, il l'est encore davantage. Non pas tellement au plan du cinéma, parce que il y a dans le cinéma d'Amat Escalante une force, une sécheresse, un sens des ellipses tout à fait indéniable. Ceci dit, ce qui me fait rejeter totalement ce film, c'est sa complaisance appuyée et injustifiée dans l'horreur. Je pense entre autres à cette scène de pendaison entre les arches d'un pont que l'on voit au début du film et qui est reprise à la fin pour, comme si vous voulez, le redoubler. Ou encore une interminable scène de torture où on voit des hommes suspendus au plafond à qui on brûle les poils pubiens. Je pense qu'il vaut mieux ne pas consacrer davantage de temps à cette Ellie et passer au film suivant du palmarès. Alors ce film suivant, ça va être Tel père, tel fils, du japonais Kore-eda Hirokazu, est doublement primé, lui, puisqu'il a reçu non seulement le prix du jury, mais aussi une mention spéciale du jury œcuménique. Catherine, qu'est-ce que tu peux en dire ?
Alors ce film raconte un échange de bébé à la maternité qui est découvert lorsque les enfants ont 6 ans et qui va faire basculer les certitudes d'un homme riche et sûr de lui. Et tout le film va tourner autour de la question « qu'est-ce qui prime, le sang ou l'éducation ?» Au départ, l'argument est le même que dans « La vie est un long fleuve tranquille », mais il évolue de manière complètement différente. Les deux familles sont certes de milieux sociaux différents, mais pas de manière caricaturale. Le père architecte qui a réussi est très rigide et veut inculquer des principes à son fils qui ne répond pas totalement à ses attentes. Dans l'autre famille, tout est beaucoup plus détendu. Le père ne fait pas grand-chose en dehors de jouer avec ses enfants et les rencontres entre les deux familles ne manquent pas de sel avec des moments très drôles. Principes d'éducation différents, mais par contre, dans la famille plus simple, un grand attachement à l'enfant même s'il n'est pas leur fils biologique. L'échange est décidé pour rendre à chacun son enfant par le sang sans aucune explication auprès des enfants. Les mères sont beaucoup moins strictes et sympathisent rapidement, mais ne sont pas vraiment d'accord pour l'échange. On sent très nettement que ce sont les hommes qui commandent au Japon. La grand-mère essaye même de s'opposer à son gendre, mais bat en retraite rapidement. Ce film dit beaucoup de choses sur la société actuelle au Japon. Le rapport homme-femme, l'obsession de la réussite professionnelle au détriment de la vie de famille, le respect des anciens, le rapport à la religion. Finalement, l'architecte va évoluer au contact de l'autre famille et se rendre compte que le fils qu'il a élevé l'aime vraiment et donne lieu à des retrouvailles émouvantes. C'est un film qui mérite largement son prix du jury et la mention du prix du jury œcuménique. Je l'ai vraiment trouvé très beau.
Oui, moi aussi j'ai vraiment aimé ce film et j'adhère à peu près tout ce que tu dis. Et je rajoute une chose, c'est que je trouve que personne ne s'est filmé l'enfance mieux que Kore-eda. On l'avait déjà vu dans Nobody Knows et dans I Wish. Et là, il persiste ses signes dans ce film où gosses de pauvres et gosses de riches se mélangent dans une espèce de gaieté joyeuse qui fait tomber les barrières de classe de manière tout à fait réjouissante pour le spectateur. Jean-Michel, tu veux...
Moi, je suis fâché de ne pas vraiment être d'accord avec vous parce que pour moi, il s'agit d'un film estimable, d'un très bon réalisateur, mais cependant moins réussi peut-être que les précédents Nobody Knows, Still Walking ou I Wish. Est-on le père de son enfant ou le devient-on ? That is the question. C'est un très beau sujet, mais on a un peu de mal à avaler le point de départ du drame. Je regrette aussi la symétrie de traitement des quatre parents au profit du cadre supérieur et au détriment des femmes, mais ça est probablement culturel, comme Catherine l'a dit. Mais surtout, l'approche, pour moi, assez sommaire du comportement des deux enfants plongés dans la détresse. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir compris la morale de l'histoire.
Oui, ben je pense que justement, ça se termine un peu sur une fin ouverte, disons, peut-être, parce que le réalisateur ne sait pas comment fermer son histoire. Enfin, bon, je pense quand même que ce film présente beaucoup d'intérêt. Puis on va passer au film suivant, qui est Le Passé, qui a reçu le prix d'interprétation... Excuse-moi, qui est Eutotosin. Excusez-moi, je mélange un petit peu. On va rester en Asie avec le film suivant, à qui le jury de Cannes a attribué le prix du scénario. Il s'agit de Eutotosin, du cinéaste chinois Yazhangke. Un film qui peut-être méritait encore mieux, et peut-être que là, Jean-Michel, je sens moins sévère que pour le Kore-eda.
Je serais beaucoup moins sévère, et je vais vous en dire beaucoup de bien. C'est un prix pleinement justifié que celui attribué au film du réalisateur chinois Jiazhangke, qui nous a déjà donné Still Life, 24 City et I Wish I Knew. Un mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village, un travailleur migrant découvrant les infinies possibilités offertes par son arme à feu, une hôtesse d'accueil dans un sauna poussée à bout par le harcèlement d'un riche client, un jeune ouvrier enfin dont l'existence se dégrade avec son incessante précarité d'emploi, tels sont les quatre personnages avec à la clé trois meurtres et un suicide, ce sont des moments de péché, comme le dit le titre, qui dans quatre provinces différentes d'une Chine contemporaine qui change rapidement, se débattent au sein d'une société au développement économique brutal, gangrénée par la violence et la corruption. La violence, ultime recours pour les plus faibles et les plus pauvres, est le sujet central de ce film, violence dont le réalisateur, en déployant ses méfaits dans plusieurs contextes différents, veut forcer le spectateur à prendre conscience de son existence en chacun d'entre nous. Sa thèse est que, constitutive de la personne humaine, elle découle aussi de la pauvreté des échanges interpersonnels et d'une aspiration avoir reconnu un minimum de liberté et de dignité personnelle. La motivation des actes violents que le cinéaste nous montre est en effet beaucoup plus une soif de plus de justice sociale que l'expression d'un banditisme banal. Et au-delà de l'infinie richesse du scénario de chacune de ces quatre histoires enchaînées, la force des images de ce film, qui évoque parfois avec humour la gestuelle du kung-fu, est extrême. et aurait dû lui valoir, à mon sens, soit la Palme d'Or, soit le Grand Prix.
Merci Jean-Michel pour cette analyse. Je ne sais pas, Catherine, qu'est-ce que tu partages cette analyse?
Est-ce que tu... Disons que je l'ai vue deux fois. Parce que la première, j'étais restée assez extérieure. J'avais un peu de peine à voir les enchaînements. Ça m'avait un peu déconcertée. Et à la deuxième vision, je l'ai beaucoup plus appréciée. Encore que la violence soit un petit peu présente. Il n'y a pas trois meurtres, il y en a bien plus que ça. Puisque le premier tue généreusement autour de lui, dans son village. Mais je pense que c'est un film intéressant.
D'accord. Très rapidement, Marie-Jeanne.
Oui, tout à fait d'accord. Et je m'étonne qu'il soit passé à la censure parce qu'il dénote, il dénonce toutes les tares du système chinois actuel.
D'accord. Mais moi aussi, enfin, je partage entièrement cet enthousiasme, mais je trouve qu'il mériterait largement mieux. En passant au film suivant dans le palmarès, il s'agit du prix d'interprétation des féminines qui a été décerné à Bérénice Bejo pour son rôle dans Le Passé, un film d'Ashgar Faradi. Un film qui nous intéresse d'ailleurs particulièrement, autant à profil qu'à fréquence protestante, car il a reçu le prix du jury œcuménique. Marie-Jeanne, comment tu as reçu ce film?
Alors, dans son communiqué de presse, le jury œcuménique a présenté le film du lauréat en ces termes. Comment assumer sa responsabilité pour les erreurs du passé? Sous forme de thriller, le réalisateur montre la vie d'une famille recomposée où les secrets de chacun et la complexité des relations se dénouent peu à peu. Un film dense, profond et attachant qui illustre bien ce verset « La vérité vous rendra libre ». Alors quel est le propos? Marie, Béatrice Bejo, est venue à Roissy attendre Ahmad, joué par Ali Mossafa, qui l'a quitté il y a 4 ans et est reparti vivre en Iran. Tous deux sont séparés par une vitre et se parlent sans qu'aucun n'entende les mots de l'autre, donc ce qui préfigure bien leur relation. Ahmad est revenu à la demande de Marie pour signer les papiers de leur divorce et à sa grande surprise, Marie l'installe dans sa maison de Sevran où ils ont vécu ensemble et qu'occupe la femme aujourd'hui avec ses deux enfants nés d'un précédent lit et un petit Fouad qui est le fils de son nouveau compagnon Samir Tahrahim qui dirige un pressing dans le 19e. Samir est marié et sa femme est depuis plusieurs mois plongée dans un coma probablement irréversible après qu'elle ait tenté de se suicider. Alors quelles furent les circonstances de ce suicide? C'est une des questions précisément auxquelles le passé va répondre par touches successives en dévoilant peu à peu la vérité des personnages qui n'est d'ailleurs jamais celle que l'on croit comme dans la vie et dont le passé surgit à chaque instant du présent. Alors l'intérêt du film est maintenu de bout en bout. Jamais la tension ne faiblit ou ne se lasse. Les comédiens sont magnifiques, avec toutefois, en ce qui me concerne, une réserve sur le jeu d'abord de Tahir Rahim, que je trouve beaucoup trop distancé par rapport à son personnage, et aussi, malgré son prix d'interprétation, celui de Bérénice Bejo, que je trouve trop hystérique à mon goût.
Merci Marie-Jeanne. Oui, bon, je vois ton avis, tu es assez enthousiaste. Catherine, tu partages?
Je partage tout à fait cet avis. Je trouvais que c'était un film remarquable. Bon, on a déjà eu avec Une séparation l'habitude de ce scénario à épisodes successifs, la vérité se dévoilant peu à peu. Là, le fait que ça se passe en France apporte un jour nouveau. Et je trouvais que Bérénice Bejo était très bien dans son rôle d'hystérique parce que je crois que c'est ce que le metteur en scène voulait. Donc, oui. Les femmes sont un peu toutes hystériques. Les hommes sont plus calmes. Mais les femmes, il semble que ce soit le rôle qu'il ait voulu leur donner.
Oui. C'est ce qui me gêne, précisément.
Oui, mais par contre, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est l'image, on ne peut pas en parler ici, mais je trouve qu'il y a une utilisation métaphorique de l'image tout à fait remarquable et qui est caractéristique d'Ashgar Faradi. Jean-Michel, tu veux...
Oui, moi, je reste un peu sur ma faim. Je ne retrouve pas au même degré dans ce film le grand et subtil cinéaste de la séparation. Le sujet a de quoi retenir puisqu'il s'agit pour Marie de faire appel à son ex pour apaiser la révolte adolescente de sa fille d'un premier lit. C'est pas inintéressant. Mais le comportement inintelligent et hystérique, là je reprends le terme, du personnage de la mère... et l'interprétation caricaturale qu'en donne Bérénice Bejo, inexplicable prix d'interprétation féminine.
Tout à fait.
Il y a eu des pressions. Desserve grandement ce film qui ne réussit pas à sauver le comportement digne et nuancé d'Ahmad, dont on se demande tout de même ce qu'il allait faire dans cette galère.
Oui, moi, où je te rejoins, c'était que s'il méritait un prix, ce n'était pas celui d'interprétation féminine. Mais par contre, je l'aurais vu peut-être un niveau au-dessus, ne serait-ce que celui de la mise en scène, je trouve remarquable. Passons au dernier film du palmarès, celui de l'interprétation masculine, qui a été décerné à Bruce Dern dans Nebraska d'Alexander Payne. Alors, Marie-Jeanne, une réaction ?
Oui. Alors, un vieil homme est persuadé qu'il a gagné un gros lot à une improbable tirage au sort par correspondance, et il cherche à rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain. Alors, sa famille, inquiète par ce qu'elle perçoit déjà comme un début de sénilité, envisage de le placer en maison de retraite, mais un de ses fils veut faire plaisir à son père sur ses vieux jours et décide de l'amener en voiture pour récupérer ce chèque auquel évidemment personne ne croit. En chemin, le père se blesse, les oblige à s'arrêter quelques jours dans sa ville natale du Nebraska et à revoir sa famille, ses amis, et le vieil homme retrouve là alors son passé avec ses échecs et ses frustrations. Le film est intéressant parce qu'il est tourné en noir et blanc. C'est une sorte de road movie à travers quatre états de l'Amérique qui nous plonge dans cette Amérique profonde. Et Penn fait là un film plein de pudeur, de tendresse, drôle parfois, mais souvent émouvant, sans toutefois jamais tomber dans le sentimentalisme. Son personnage central est un anti-héros magnifique. Je vois Jean-Michel qui hausse les sourcils. Un anti-héros magnifique, un vieil alcoolique bougon qui est remarquablement interprété justement par Bruce Dern qui a obtenu le prix d'interprétation masculine.
Merci Marie-Jeanne. Une réaction très rapide parce qu'on a guère le temps. Catherine, tu dis quelque chose à dire sur ce film ?
Disons que le jeu de Bruce Dern ne m'a pas vraiment séduit puisqu'il a un visage totalement immobile tout au long du film, donc je ne lui aurais pas donné le prix d'interprétation masculine. Par contre, j'ai apprécié le film, j'ai apprécié le personnage du fils, j'ai apprécié le rapport entre le père et le fils. Ouais. J'ai trouvé que c'était la chose la plus intéressante dans ce film.
Jean-Michel,
je suis désolé, il faut que qu'on passe au film suivant, parce que on n'a plus le temps de parler des films. Si on veut parler des oubliés,
dire du mal de ce film.
Oui, si on veut parler des oubliés du festival, et finalement, ça va être là surtout qu'on nous attend, parce que ces oubliés sont nombreux, et c'est dommage, ces films qui sont restés dans le silence. Alors, il y en a beaucoup, mais nous en avons choisi trois pour terminer cette émission consacrée à ce festival de Cannes. Jean-Michel, tu voulais d'abord nous parler de Michael Colas.
Oui, il y en a beaucoup d'autres, mais enfin, je vous parlerai de Michael Colas. La sélection française était cette année particulièrement brillante, avec ce diamant noir oublié du palmarès, du cinéaste Arnaud Despalières, qui nous a donné de grands films comme Adieu et Drancy à venir. Michael Colas est un récit de Heinrich von Kleist, retraçant l'histoire vraie d'un marchand de chevaux, qui, victime de l'arbitraire d'un seigneur local, mit au XVIe siècle une province d'Allemagne à feu et à sang pour obtenir réparation. C'est donc l'histoire d'un homme seul, qui remet violemment en cause l'ordre social établi de son temps, et a des résonances extraordinaires dans la politique, la littérature et la réflexion éthique contemporaine. Bien plus que la simple illustration cinématographique flamboyante de la sombre épopée narrée par l'écrivain romantique, ce film est la création incandescente d'un cinéaste véritablement inspiré. Cette œuvre riche, touffue et énigmatique met en scène, en transposant l'action et les splendides chevauchées dans les magnifiques paysages des Cévennes, des conséquences extrêmes de cette révolte orgueilleuse et intransigeante. Ce qui intéresse le réalisateur, c'est la dignité et l'obstination suicidaire du personnage qui renonce in fine par droiture morale à prendre le pouvoir. Le travail sur la picturalité de tous les plans et la répartition de l'ombre et de la lumière, la souplesse de la caméra et l'attention portée à la bande-son sont proprement parlés admirables. Et pour tous ceux qui aiment les acteurs, l'équipe masculine est prestigieuse avec Bruno Ganz, Denis Lavant, David Benen, Sergi Lopez, Jacques Nolot, emmenés par un Mads Mikkelsen scène impressionnant dans le rôle-titre.
Merci Jean-Michel. Catherine, toi, c'est un film tout à fait différent que tu veux nous parler, c'est de Borgman.
Alors, Borgman de Alex van Warmerdam, qui est hollandais. Il est déjà venu à Cannes pour son film Le Petit Tony, qui a été présenté à Un Certain Regard il y a 15 ans. Il est aussi connu par son film Les Habitants en 92 et il a réalisé en tout une quinzaine de films. Alors le film débute de manière étrange, un prêtre célèbre la messe, puis participe à une chasse à l'homme dans une forêt où des hommes vivent sous terre. L'homme pourchassé parvient à s'échapper ainsi que ses deux complices. Il s'incruste dans une maison moderne et luxueuse sous le prétexte de se laver. Le mari est furieux et le tabasse, la femme se laisse attendrir puis séduire, les enfants rentrent dans le jeu. Les meurtres commencent ensuite et tous les moyens sont permis, coups, revolvers, poisons, pour éliminer ceux qui se mettent en travers de sa route et l'empêchent de prendre possession de tous les habitants de la maison, ce qui semble être son but. De mystérieuses femmes apparaissent ainsi que les deux comparses du héros. La peur monte subtilement, le jardin est dévasté par Camille, qui est le héros, et ses comparses censés être des jardiniers. Les enfants sont quasiment envoûtés par les histoires que Camille leur raconte le soir. Puis de mystérieuses opérations sont pratiquées dans le dos sur les enfants et la babysitter qui leur fera rejoindre le clan des autres, qu'on ne sait comment nommer, et tous partent à la fin dans la forêt après que le père et la mère aient disparu sans laisser de traces. L'angoisse monte peu à peu, on sent l'attirance de la mère pour Camille, la babysitter est séduite par un des complices. Qui sont-ils? Des vampires? L'allégorie du mal? Une secte satanique ou l'incarnation de nos peurs? Tout est possible. Est-ce un rêve, un conte mythologique, un thriller, une fable? Seuls les prénoms des protagonistes donnent un corps à la mythologie cinématographique ou autre. Rebecca Hitchcock, Ludwig Richard, filiation royale, Isolde, l'histoire imaginaire des légendes médiévales, et la cicatrice dans le dos fait penser au héros Siegfried.
Oui, ben sans plus tarder, on va passer à la grande Bellezza, présentée par Marie-Jeanne qui adorait ce roman.
Ah là là, comment vous décrire en 1 minute 30 un film aussi riche, aussi foisonnant d'images et d'idées, aussi brillant que la grande Bellezza? Mon propos sera simplement de vous donner envie d'aller le voir. Rome l'été, avec ses touristes et ses monuments d'une indicible beauté. D'ailleurs, un touriste japonais éprouve au début du film le syndrome de Stendhal et meurt terrassé par tant de beauté. Des plans, des scènes se succèdent sans lien apparent, mais tout empreinte de cette beauté si sensuelle qu'offre Rome aux visiteurs. Avec un fil tout au long du film, la présence constante de Jep Gambardella, incarné par le grand Tony Servilio, écrivain, journaliste brillant, séducteur impénitent au charme indéniable et certainement suranné, qui promène sur sa ville et sa vie un regard distant, amer, lucide, plein de nostalgie et de cynisme désabusé. Il est le roi de cette société frivole et joyeuse qui donne des fêtes somptueuses et qui s'amuse comme si c'était la dernière fois. Alors les images sont splendides, séduisantes, d'une beauté mélancolique et belle et grande. On ne peut ne pas penser évidemment à la grande époque du cinéma italien avec les Fellini, Scola, Ferreri, mais Fellini surtout. Et bref, un film jubilatoire qui 2h30 durant vous amène dans un monde d'une grande bellezza.
Eh bien, Marion, je crois que tu nous as vraiment donné envie d'aller voir ce film. Et donc, merci. Merci Catherine, merci Jean-Michel, merci Arnaud et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. La prochaine émission de Chant contre Chant aura lieu le vendredi 26 juin. Ce sera encore une émission un peu particulière et qui sera consacrée cette fois au cinéma suisse. Au revoir à tous et à bientôt.
À bientôt.